With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de TGN Actu, un nouveau podcast consacré à la draft et notamment à une présentation des différentes positions dans l'optique du repêchage prévu fin avril du côté de Kansas City. Dernière position offensive aujourd'hui, passer au peigne fin puisqu'on va s'intéresser au poste des receveurs, souvent très fourni, notamment dans les premiers tours. Ce sera peut-être un peu moins le cas, ils seront peut-être un peu moins à l'affiche, mais en tout cas, il y aura aussi beaucoup, beaucoup de joueurs et de stars à mettre à l'honneur. Alors, on s'excuse d'avance, je disais lors du précédent podcast, on n'a pas pu forcément caser tous les joueurs. Non, il n'y aura pas Charlie Jones de Purdue. Non, il n'y aura pas Jaden Reed de Michigan State. Ou encore, on aurait pu mettre Andre Iosevas, on aurait pu mettre Marvin Mims, on aurait pu mettre Xavier Hutchinson. Il y a plein de joueurs dont on aurait pu parler dans cette classe-là, mais bon, on a essayé de restreindre, de cutter le maximum, notamment au niveau des 9 profils qui vous intéressaient le plus au cours de cette émission. Et pour en parler d'ailleurs, il est de nouveau ma compagnie, Nitinia. Simon est avec moi, salut Niti.
Salut Greg, bonjour à tous. Juste pour préciser que nous ne nous en voulez pas si les 5 joueurs cités par Greg ou d'autres joueurs que vous aimez bien ne soit pas à l'honneur sur ce podcast, sinon vous nous écrivez sur le site ou alors vous nous laissez un commentaire.
Tout à fait, en toute bienveillance, bien entendu. Ça va être
exactement.
Mais c'était un peu compliqué. De toute façon, dans l'idée, hein, je balance ça comme ça, alors qu'on n'en a pas parlé officiellement en off. On va essayer, bien entendu, de couvrir l'événement si possible sur les 3 premiers tours en direct. Donc ce sera quand même, si ces joueurs-là, on le finisse dans les 3 premiers tours, dans les 2 premiers jours de la draft. Vous inquiétez pas que de toute façon, on aura des choses à dire. Ce sera préparé en amont, donc il n'y aura pas forcément de soucis là-dessus. Mais bon, il y a énormément de profils dont on aura pu parler. J'ai pas parlé de Parker Washington, également de Penn State. Enfin voilà, il y a énormément de noms, encore une fois. C'est pour aussi insister sur le côté un peu profondeur du poste dans cette classe. Mais on va le dire tout de suite, Niti, c'est une classe qui peut être profonde, on va dire, entre le 2e et le 4e tour. Ça se bouscule peut-être un peu moins que d'habitude pour être sélectionné dès le jeudi sur la position de receveur.
Eh ben, figure-toi que l'année dernière, il y en avait 5, il me semble, qui étaient pris au premier tour. Là, j'en vois maximum 3, voire 4 qui seront pris au premier tour. Et c'est vrai, comme tu l'as dit, les autres receveurs qui seront présents dans cette QV 2023 vont être principalement entre le 2e et le 4e tour. Il peut même y avoir des noms draftés, qui sait. Voilà, donc, là on va parler des joueurs qui vont être potentiellement draftés. Donc, une bonne QV tout de même.
Oui, tout à fait. Il y aura quand même de quoi faire. Il y a des profils assez intéressants, comme on va le voir dans cette émission. Donc, avec un schéma assez similaire, donc 3 chapeaux pour déterminer un petit peu les têtes d'affiche, les outsiders et les joueurs peut-être un peu plus en retrait, les joueurs un peu plus labellisés comme des bonnes affaires par rapport à d'autres. Et dans ce premier chapeau, on va commencer par un joueur qui a crevé l'écran, Niti, puisqu'on va parler d'un finaliste de la finale universitaire, du championnat universitaire, des playoffs, Quentin Johnston, receveur donc, de Texas Christian, auteur cette saison de 1069 yards et 6 touchdowns. Forcément à la réception, Quentin Johnston, profil extrêmement atypique, notamment de par le fait qu'on a quand même un beau bébé sur le papier et un joueur quand même sans doute l'un des receveurs les plus grands de cette classe.
Peut-être le plus grand de cette classe. Hein, Xavier Hutchinson que tu as mentionné fait partie aussi des plus grands, mais on ne va pas l'évoquer. Oui, Quentin Johnston est l'un des plus grands de cette QV, 1m93, 95 kg. Je vous renvoie à l'article qui a été mis sur le site de TouchdownActu.com il y a quelques jours sur ce joueur-là, vous en saurez aussi. Mais effectivement, moi, je vais en parler d'un joueur qui était dans mes top receveurs avant la saison 2022 et qui a fait plus que confirmer, effectivement, comme tu l'as dit, Greg. Il s'est transformé en véritable playmaker cette saison pour TCU, une machine à yards après réception également en 2022. On l'a vu contre Michigan, notamment en demi-finale de college football, où il a martyrisé DJ Turner, le cornerback de Michigan, pour pouvoir inscrire un touchdown de plus de 70 yards. Il a inscrit pourtant autant de touchdowns que l'an dernier, hein, c'est-à-dire 6, mais sur les 6 touchdowns qu'il a mis cette année, beaucoup ont été à la dernière minute pour permettre à TCU de s'imposer. Voilà. Son seul match raté, c'est la finale contre Georgia, où il n'a pas été vraiment mis en valeur, il faut le dire, et muselé par la défense de Georgia.
Il y en a
Mais
beaucoup qui ont raté leur finale du côté de TCU, hein, je pense qu'on
voilà,
peut le dire.
exactement, c'est pas le
Quand on
pire.
finit à 65-7, généralement, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont brillé. Ouais.
Exactement. Voilà. Mais sinon, on va parler du joueur en lui-même. Hein. Il est effectivement très athlétique, très grand, comme on l'a déjà dit. Il a de bonnes mains, un bon pouvoir d'accélération, malgré un arbre de tracé qui n'est pas spécialement très fourni dans le système offensif de TCU. Mais on va dire que c'est pas vraiment un point faible, puisque ça se travaille, un arbre de tracé, surtout en NFL lorsqu'il va prendre un nouveau cahier de jeu offensif du côté du monde professionnel. Autre problème qu'il a également, c'est la séparation. Il a du mal à faire la différence lorsqu'il est défendu contre une couverture homme à homme. Par contre, contre la couverture en deux zones, ne le laissez pas. Il va probablement attraper le ballon et vous faire un petit spin move pour pouvoir se débarrasser de vous.
Ouais, c'est ça. Bah, c'est un résumé assez fidèle. C'est vrai que moi, ce qui m'étonne un petit peu, alors, Quentin Johnston, pour bien contextualiser ceux qui suivent le foot universitaire d'un peu plus loin, c'est pas une sensation de le voir annoncé au premier tour dans le sens où c'était une top recrue quand il arrivait du côté de TCU, une des recrues stars en provenance du Texas l'année où il est recruté. Donc on savait que le talent était là, et encore une fois, il y avait cette alliance en effet de taille, de vitesse et de capacité notamment à avoir des mains assez précieuses. Et c'est plus le fait qu'il ait plus ou moins sous-performé les premières années du côté de Texas Christian qui alertait un petit peu. Là, on a vu que cette année, il y avait un changement de système du côté de TCU qui a aussi pas mal beaucoup, enfin, qui avec son développement a aussi beaucoup mis beaucoup plus en valeur ses qualités intrinsèques. Et tu le disais, c'est vrai que on est peut-être aussi sorti du côté cliché où on mettait justement bah, le grand qui allait jouer sur des jeux un peu, sur des passes un peu contestées, on va dire, parce que ça, c'est un peu le gros bémol avec Quentin Johnston, c'est qu'en effet, il y a la taille, mais il n'y a pas un pourcentage de ballons réceptionnés sur des passes contestées. Ça rejoint un peu ce que tu disais sur la séparation. C'est un joueur, contrairement à ce qu'on pourrait penser, qui est meilleur sur la prise d'espace que sur le duel en homme à homme. Alors c'est sûr que sur de la défense presse ou en homme à homme, en effet, ça peut être quelque chose d'inquiétant, en tout cas dans un premier temps. Mais c'est un joueur qui va démontrer une vraie capacité, une aptitude à casser notamment les plaquages qui peut être vraiment dévastatrice pour les défenses adverses. Et voilà, c'est en ça que ça en fait un projet extrêmement intéressant. Quentin Johnson, il n'a pas encore 22 ans, donc ça fait partie de ces joueurs, encore une fois, où on ne se dit pas, oh là, le vieux va pouvoir progresser. Donc voilà, il y a quand même une marge assez intéressante. Coucou et Victor, hein, j'en place une à chaque émission. Mais voilà, bref, au-delà de la caricature grossière. Mais non, voilà, il y a quand même un plafond assez intéressant le concernant. Voilà, tu le disais, les tracés sont pas fabuleux, mais il y en a quand même, voilà, mais il y a quand même il y en a quand même assez bien établi le concernant. Donc ça peut en effet être un projet intéressant, mais peut-être plus un projet, voilà, comme tu disais, pour sévir contre des défenses en zone, voire pourquoi pas pour être un excellent slot receiver, notamment dès sa saison rookie, ça peut être un joueur assez précieux. Donc à voir éventuellement ce que ça peut donner. Voilà. Bon, globalement, je pense qu'on est
C'est
d'accord.
ça.
Premier tour assuré pour toi, Quentin Johnston?
Oui, premier tour.
Ah
Il
bah.
sort du premier tour, je ne comprendrai pas certaines équipes NFL.
À
Parce
moins qu'il y ait un
que,
dossier médical
voilà.
qui,
Voilà.
voilà, qui fasse en effet que malheureusement la balance penche du mauvais côté, je pense que vraiment, voilà. Il fait tellement saliver les scouts que je pense qu'il y aura des gros filets de bave dans toutes les green rooms. Je pense
Pareil.
que voilà, il y a bien une équipe qui va tenter le pari dès le premier tour, donc ça me
Non, mais
paraît
un
quand même
receveur
assez notable.
qui a la bonne taille, qui a de bonnes mains et qui va vite, ça ne peut pas se louper. Ça sort pas du premier tour.
Oui, je pense également. La question peut se poser, oui ou non, d'ailleurs. Alors là, pour le coup, les avis divergent énormément concernant le deuxième joueur dont on va parler, à savoir Jordan Addison, pardon, receveur de USC, anciennement de Pittsburgh en l'occurrence, qui a transféré la saison dernière, qui a rejoint la Dream Team de USC avec notamment le quarterback Caleb Williams, tout récent meilleur joueur universitaire de la saison 2022. Donc, Jordan Addison y a contribué, même s'il a raté quelques matchs en raison de blessures. 875 yards à la réception et 8 touchdowns à son actif sur la dernière campagne universitaire. La problématique, on va essayer de schématiser assez grossièrement concernant Jordan Addison. Nitti, c'est peut-être le meilleur receveur de possession de cette classe, mais il y a un physique qui inquiète. Un physique assez frêle sur le papier. Je parlais des catchs contestés tout à l'heure pour Quentin Johnson. C'est pas forcément plus fameux pour Jordan Addison. On est peut-être plus sur un joueur, alors là encore, je ne vais pas caricaturer non plus, on est peut-être plus sur un joueur cérébral que vraiment purement athlétique.
Là, on est plus. Alors, athlétique, je ne dirais pas jusque-là, parce que athlétique, alors, quand je dis que je n'irais pas jusque-là, il est quand même athlétique. Hein, et c'est un joueur qui a beaucoup de vitesse, qui a un bon premier pas. Mais c'est vrai que quand on regarde le joueur, tu as l'impression que, effectivement, ce n'est peut-être au mieux, finalement, au potentiel en NFL qu'un receveur numéro 2. Parce que la puissance, il n'a pas forcément. Après, ce qui est bien chez lui, c'est qu'il a été transféré de Pittsburgh à USC et il a réussi à faire la transition. C'est-à-dire que sa production n'a pas vraiment tant baissé que ça, hein. Même si à Pittsburgh, il a été élu meilleur receveur du college football et là, il a seulement été un receveur parmi d'autres receveurs à USC, comme tu as dit, la Dream Team de USC avec Caleb Williams. Il a réussi à s'adapter à un autre cahier de jeu offensif. Donc, on peut pas dire qu'en termes de QI football, il soit mauvais. Donc ça c'est indéniable. Mais ce qui est bien chez lui, c'est un profil de possession, effectivement. La séparation, il a. La vitesse, il a. Les mains, un peu irrégulier, même si seulement deux drops en 2022. Et malgré tout, ça reste un joueur qui voilà, a un potentiel de son numéro 1, mais qui, lorsqu'il va entrer en NFL, ne sera probablement qu'un receveur numéro 2 pour le moment. Je le vois débuter dans le slot ou alors au large, mais plus dans le slot pour le moment.
Ouais, les exemples qui viennent forcément de par son gabarit, c'est toujours les mêmes, hein. C'est du Keenan Allen, du Devonta Smith. Voilà, qui peuvent. Voilà, il y a une marge de progression qui est là. À l'inverse de Quentin Johnson, je trouve que par exemple sur les phases de bloc, il est beaucoup plus incisif. Et je trouve que ça peut être précieux, par exemple, sur une équipe qui peut aussi utiliser la course à bon escient, hein, avoir un receveur de.
Oui, qui peut
Qui
bloquer, ouais.
même si on le dit relativement frêle, c'est un joueur qui va pas hésiter à aller au charbon, donc c'est quelque chose quand même d'assez louable. Après, l'autre problématique également, c'est voilà, la difficulté à casser les plaquages, et ça rejoint globalement ce qu'on disait, voilà, là aussi contre des corners peut-être un peu presse, c'est des receveurs qui vont peut-être avoir du mal, en tout cas dans un premier temps, à se mettre en évidence, donc ça va clairement être un axe d'amélioration pour vraiment réussir à être pleinement efficace chez les pros. Voilà. On reste sur un premier tour quand même pour Jordan Addison, on est d'accord.
Non, non, premier tour, pareil, lui, il sort pas du premier tour, sinon c'est un début de deuxième.
Ouais,
Mais
c'est un bon top 30, quoi.
voilà,
Voilà, on va dire.
exactement.
Voilà. Mais c'est intéressant de voir que, mine de rien, voilà, avec Devonta Smith, par exemple, justement, on avait dit, oh, quand même, le gars,
Non, mais Devonta
il
Smith,
fait 34 kilos tout mouillé, et puis
ouais.
derrière, on voit qu'il arrive quand même à bien tourner aux Eagles, et ce, avant même l'arrivée d'AJ Brown, et qu'il y a quand même des mecs qui se disent, oh, quand même, le gars, il est un peu frêle,
Non, mais
c'est
Devonta
chaud.
Smith, meilleur receveur lorsqu'il sortait
C'est sûr, meilleur joueur universitaire quand il arrive en NFL, c'est sûr que ça
Ouais.
aide aussi, mais voilà, on a vu d'autres meilleurs joueurs qui n'aiment pas forcément un gros Scott. Donc c'est vrai qu'en NFL, on n'a pas toujours l'impression qu'on apprend des erreurs passées, donc c'est un petit peu problématique. Le troisième joueur, qu'il a encore va être une petite énigme dans ce processus draft, c'est Jaxon Smith-Njigba, pardon. Énième joueur, énième receveur d'Ohio State à se présenter à la draft et en étant extrêmement coté, Nitti. Alors le problème, c'est qu'on a une face ombre et une face lumière pour Smith et Jigba, c'est-à-dire une énorme saison 2021, mais un exercice 2022 quasi blanc.
Exactement, 2021, on va rappeler ses stats. 95 réceptions, 1695 yards et 14 touchdowns, il me semble.
9 touchdowns,
pardon, 9 touchdowns, dont 3, pardon, j'ai exagéré.
Pour contextualiser, il avait moins de touchdowns que Garrett Wilson et Chris Olave qui ont été draftés donc, l'année dernière, ouais. Mais il avait quasiment 500 yards de plus que le meilleur des deux.
Voilà, meilleur statistiquement que les deux receveurs que tu as cités, draftés au premier tour, donc lors de la draft 2022, par les Jets et par les Saints précisément. Jaxon Smith-Njigba est pour moi le plus talentueux de la QV. C'est le joueur qui a tout d'un receveur numéro 1, l'arbre de tracé et la précision pour les courir, les mains, la séparation. Voilà, donc ça c'est typiquement ce que je recherche d'un receveur numéro 1, d'un receveur de possession. Ça, c'est le talent. Après, comme tu disais, 2022, seulement 3 matchs, 5 réceptions, 43 yards, une blessure aux ischios qu'il a pris de toute la saison. Donc là, la question pourra se poser lors de l'intersaison. Est-ce qu'il a récupéré de sa blessure? On l'a un peu vu lors du NFL Combat, il a fait quelques activités, le 3 cônes, il a fait également la détente verticale, mais il n'a pas fait le 40 yards. Bon. À voir s'il va le faire lors de son Pro Day à Ohio State. Mais en termes de talent, c'est peut-être le meilleur de la QV, mais il manque d'un pouvoir d'accélération. Donc, c'est-à-dire que face à des cornerbacks plus aguerrés en NFL et qui défendra sur une couverture de presse, donc en homme à homme, il aura peut-être du mal à faire la différence rien sur sa vitesse. Mais ça va être un joueur, on lui demandera probablement d'abord de jouer dans le slot pour ensuite, pourquoi pas, quand il prendra de la masse physique, être aligné sur la largeur, sur l'extérieur, pour être une vraie menace profonde et un joueur qui va produire donc en NFL.
Alors, je suis d'accord avec toi dans le sens où je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de faiblesses sur ce joueur-là. Les principaux points qu'on peut éventuellement lui reprocher, en effet, c'est plus du point de vue santé. On va se dire, en effet, c'était un joueur qui paraissait hyper explosif en 2021. Est-ce que l'explosivité est toujours là avec les problèmes de blessures qu'il a eu? En effet, tu le disais, sur un événement un peu ponctuel, ça n'a pas forcément sauté aux yeux. Hein. Et puis encore une fois, on n'a pas toutes les radios à disposition non plus pour pouvoir se prononcer là-dessus, donc on va s'abstenir de le faire. L'autre chose qui lui est reprochée manifestement des échos qu'on peut avoir à gauche à droite, c'est parfois des petits sautes de concentration que je ne partage pas à 100%. Je trouve que c'est un peu des... C'est un peu les drapeaux rouges, comme on les appelle, qui étaient agités lorsque Kadarius Toney, par exemple, s'est présenté en provenance de Florida. Les profils athlétiques sont globalement les mêmes, d'ailleurs, je trouve. Hein. C'est des joueurs qui peuvent avoir à peu près la même utilisation. Oui. Kadarius Toney, c'est jamais le talent qui a été mis en considération, mais son hygiène de vie, mais en tout cas son exigence, on va dire, son éthique,
effectivement.
Voilà, c'est ça, sa volonté de s'investir à 100%. Si Jaxon Smith-Njigba l'a, et je pense qu'il n'y a pas de raison qu'il ne l'ait pas, très franchement, c'est un profil assez similaire qui peut très clairement, je te rejoins, faire mouche, ne serait-ce que sur un poste de slot receiver dans un premier temps et sur l'extérieur par la suite. Premier tour quasi sûr pour toi également?
Moi, je le voyais tout le temps au premier tour, même avec sa blessure. Donc, parce que c'est le plus talentueux de la QV. En fait, je ne sais pas, en fait, quand on va l'interviewer, parce que c'est un joueur qui est intelligent tout de même, hein, Jaxon Smith-Njigba, et s'il répond bien aux questions des scouts NFL et qu'il arrive à bien y répondre, oui, il sera fin de premier tour. Milieu de premier tour, mais s'il avait fait une grosse saison en 2022, là, c'était top 5, quasi certain.
C'est ça. Mais top, c'est top 40, on va dire, pour Jaxon Smith-Njigba.
Oui, oui, top 40.
Dans ces eaux-là, en fonction de la cote d'amour qu'on va avoir pour lui. Ouais. On passe au deuxième chapeau à présent, et on va parler de Jalin Hyatt, receveur de Tennessee. Alors, attends que je ne m'en mêle pas les pinceaux, il était pour moi celui-là, on est d'accord, hein? Ah non, il était pour toi.
Bah,
Alors, on
je
va parler. Alors,
vais.
attends, alors, attends. On va commencer par The Flowers. Alors, je vais arrêter de
Allez.
bouleverser le conducteur à chaque fois. On
C'est
va
bon.
parler de The Flowers.
Pas de
Excuse-moi pour
souci.
le titre
Ouais.
imprévu. Receveur de Boston College, auteur de 1077 yards et 12 touchdowns à la réception en 2022 du côté des Eagles, dans une saison pour le moins compliquée pour Boston College. The Flowers qui a été la véritable boussole offensive du programme donc de Chestnut Hill. Avec un profil qui, sur le papier, paye pas beaucoup de mine. C'est pas le joueur le plus grand du plateau. C'est un joueur qui possède malgré tout une bonne vivacité et surtout qui est extrêmement difficile à attraper. Je pense qu'on peut, c'est ce qui a l'air de pas mal résumer le cas des Flowers. C'est sans doute un joueur assez insaisissable, capable de prendre les espaces et surtout de se libérer. Dans la NFL moderne, c'est un joueur, voilà, c'est dans la Copycat League actuelle, quand on regarde des Deebo Samuel, des receveurs des Chiefs, c'est un profil qui peut clairement faire l'unanimité.
Bon, le problème, c'est que si on compare à Dibos Samuel, là, ça va en prendre un coup, hein,
Alors
parce
oui,
que
c'est pas le même gabarit,
c'est
on est
clair que le
d'accord.
gabarit et le physique qu'il a. Alors oui, il a une cote qui monte, hein, The Flowers, parce qu'il a fait une saison incroyable au Boston College. Alors il n'a pas été aidé, hein, par un quarterback qui a été, on va dire, très moyen, sans vouloir lui manquer de respect à Future College. Mais oui, c'est un receveur qui va être une vraie menace sur les trois niveaux, c'est-à-dire ça peut être un receveur de possession, comme ça peut être un receveur en menace profonde. Et les yards après réception, c'est peut-être le meilleur de la QV dans ce domaine-là. Par contre, effectivement, à Boston College, hein, il avait un arbre de tracé qui n'était pas forcément bien fourni, mais comme je l'ai dit pour Quentin Johnston, ça se travaille, ça aussi. Et comme tu le disais, un manque peut-être de puissance, un manque de physique également, hein, qui peut peut-être faire peur à certains recruteurs NFL. Autre défaut que j'ai trouvé, alors je sais pas ce que tu en penses, hein, mais si c'est amélioré là-dessus, c'est peut-être les mains également. Mais apparemment, hein, l'envergure qu'il avait au NFL Combine avait l'air de rassurer les recruteurs NFL. Moi, personnellement, sur ce que j'ai vu, en tout cas de la saison NFL 2000, NCAA, pardon, 2022, c'était pas vraiment ça. À voir après pour 2023.
Moi, c'est ce qui me perturbe avec ce joueur-là, c'est qu'on est typiquement sur le joueur qui, pour moi, peut être le premier receveur drafté. Pour l'aspect vraiment, justement, comme je disais, Copycat League, le fait de vraiment pouvoir s'incorporer dans de plus en plus d'attaques NFL, parce que justement, on mise sur des esprits offensifs qui reprennent un petit peu ce qui a eu du succès en NFL. Et le problème, c'est que pour moi, j'ai l'impression que, là encore, si on prend des comparaisons un petit peu maladroites, on peut aller ou très haut ou très bas. C'est-à-dire que pour moi, ça peut être un profil à la Tyler Lockett comme ça peut être un profil à la Philippe Dorsett. On est un
Ouais,
petit peu dans
voilà.
cet état d'esprit-là, c'est-à-dire que oui, en effet, il y a des attributs qui font de lui un joueur qui peut être insaisissable et un peu qui peuvent rendre un match un peu foufou. Mais malheureusement, est-ce qu'il va avoir cette constance en NFL sur l'ensemble d'un match? Rien n'est moins sûr.
Moi, j'avais une autre comparaison, c'était Jalen Reagor, le receveur
Ah oui, bah, pourquoi
de
pas?
Minnesota, mais
Pourquoi pas?
voilà. Parce qu'en fait, c'est un joueur qui va. Il est vraiment explosif. Mais alors, peut-être que finalement, les mains, c'est pas trop ça, finalement. Donc, j'ai beaucoup de réserves sur lui. Beaucoup le voient au premier tour. Comme tu as dit, c'est peut-être le receveur qui appartient en premier. Ou là, si c'est lui qui n'est pas en premier par rapport aux trois autres qu'on a évoqués auparavant,
Ah,
je sais pas quoi en penser.
franchement, il n'y a plus rien qui m'étonne vraiment.
C'est vrai.
On rappelle qu'il y
Tu
a.
penses. Je
Y
pense
a,
à la draft
voilà, y
après
a...
ça.
Ah, franchement, ouais, pour le coup, alors, Drake London avait une certaine cote, mais je ne sais pas
Ouais.
si beaucoup mettaient forcément Drake London avant Garrett Wilson ou Chris Olave, par exemple, l'année dernière. Mais
C'est ça.
c'est sûr que voilà, ça en a fait rigoler certains aussi parce que c'était peut-être pas le principal receveur annoncé du plateau, même si en l'occurrence, c'était peut-être plus homogène que ce qu'on évoque dans ce plateau 2023. On y vient, du coup, Niti, j'arrête de te piéger, du coup, on va parler de Jalin Hyatt, receveur de Tennessee. Saison absolument record, la belle saison des Volunteers, avec 1267 yards et 15 touchdowns à la réception du côté de Knoxville. C'est quoi, selon toi, sa marge de progression? C'est un joueur dont on entendait relativement peu parler avant cette année 2022 de Tennessee, mais c'est un joueur qui a su passer du statut de troisième receveur, on va dire, à receveur vraiment star dans une grosse conférence de college football. Est-ce que ça doit inspirer à l'optimisme?
Ouais, tu as presque tout dit. Donc, je vous présente le meilleur receveur de la saison NCAA 2022, donc Jalin Hyatt, un joueur donc qui était receveur numéro 2, on va dire, à Tennessee, puisque le numéro 1, c'est Cedric Tillman, qu'on va pas développer, malheureusement, je spoil un
Oui, j'aurais pu
peu,
le mettre dans les joueurs qu'on n'a pas cités, mais joueur à suivre également de près, ouais, je suis d'accord.
Exactement. Lui, c'est donc un junior, donc il a 21 ans, donc il a encore du potentiel à développer au niveau NFL, donc, puisqu'il se présente à la draft. Mais c'est vrai qu'en 2022, comme tu l'as dit, il a explosé. Il a fait de Hendon Hooker un meilleur joueur, j'ai l'impression, avec son gros bras dans le nouveau système offensif de Tennessee sous Steve Sarkisian. Voilà, longue réception, gros playmaker, yard après réception. En tout cas, dans ces domaines-là, il s'est amélioré et donc il a fait monter sa cote jusqu'à être potentiellement un joueur du premier tour pour la draft 2023. Qui sait? Voilà. Si une équipe NFL cherche une menace verticale dynamique, c'est votre homme. Voilà.
C'est
Jalin
ça.
Hyatt, clairement. Et sa marge de progression, donc, pour répondre à ta question, elle est plutôt intéressante et assez intrigante peut-être pour des équipes NFL. Mais voilà, il a un manque de puissance qui. Faudra qu'il travaille. Il n'a pas suffisamment le physique atypique pour être un receveur, ne serait-ce qu'un receveur numéro 2, qu'il sera peut-être qu'au mieux finalement, qu'un receveur numéro 2. Parce que finalement, sa bonne saison en 2022, voilà, c'est peut-être finalement qu'un feu de paille, hein, qui sait. Mais voilà, il va pouvoir être. Pardon. Il va pouvoir se miser sur ses qualités athlétiques et sur sa vitesse. Pour pouvoir tout d'abord, peut-être dès sa première saison, n'être qu'une menace profonde pour pourquoi pas ensuite, au fil des années, devenir un ressort de possession.
C'est ça. Élargir un peu plus son panel, parce que c'est le principal problème avec lui. Hein. Je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit sur Jalin Hyatt. Voilà, sans vouloir paraître trop dur, voilà, c'est vrai que c'est peut-être aujourd'hui une menace quasi verticale, mais ça ne veut pas dire que d'autres ne réussissent pas. Will Fuller a fait une carrière là-dessus, comme je disais. Torrey Smith, par exemple, de Maryland, surmonte de manière un peu plus ancienne, est excellent également dans ce domaine-là.
Ah oui,
Donc voilà, on n'est pas
effectivement.
forcément un mauvais receveur titulaire en ayant ce type de profil-là. Mais il faut savoir à quoi on s'attend par la suite, quoi. Donc voilà, il y a du potentiel pour. Tout dépend à quel point on y croit. Moi, j'en fais un quasi début de deuxième tour assuré de par ce qu'il a démontré ces derniers mois, de par la grosse marge de progression qu'il a affichée. Un premier tour, je ne sais pas aujourd'hui si les équipes sont suffisamment ambiancées, si on me permettait l'expression, et surtout avec la profondeur de receveur voilà, qu'on ne cesse de dresser depuis le début de cette émission, pour se dire que voilà, c'est un profil absolument sur lequel il faut se jeter dès le jeudi.
Bon, à mon avis, si vraiment au premier tour on cherchait un joueur de menace profonde uniquement, bah là banco, hein. Donc c'est
C'est
comme j'ai
ça.
dit, c'est votre homme. Mais ouais, je pense aller début de deuxième tour à mon avis pour le joueur de Tennessee, parce que comme je le disais, là où il a vraiment brillé cette saison et en plus un match où il a vraiment fait sensation, et je renvoie à l'article NCAA que j'avais fait sur lui lors de cette semaine-là, c'était contre Alabama. 6 réceptions, 207 yards, 5 touchdowns, un match incroyable de sa part face à une secondary qui est pourtant pas si mauvaise que ça, celle d'Alabama. Oui, il peut avoir ses grosses fulgurances donc en 2022, comme il peut avoir ses moments de discrétion sur certains matchs.
Tout à fait. Et on termine du coup ce deuxième chapeau avec le receveur d'LSU, Keishon Boutte, dont on avait un petit peu parlé lors du dernier podcast débrief Combine avec Victor. Un des receveurs qui a peut-être perdu gros. Alors, perdu gros, tout est relatif, mais qui en tout cas s'est clairement pas démontré à cet avantage pour ce qu'on soupçonnait quand même être le. Peut-être l'un des principaux spécimens athlétiques, on va dire, de cette classe avec Quentin Johnson, c'était vraiment les deux joueurs qui semblaient sortir du lot, on va dire, d'un point de vue physique. On n'a rien vu tel du côté de Keishon Boutte, et malheureusement, 2022 n'y tient, on ne peut pas s'empêcher de se dire qu'on a peut-être plus les mauvais points, les points négatifs autour de Keishon Boutte, que ce soit sur et en dehors du terrain, que vraiment ce qui en avait fait un receveur dominant dès son arrivée du côté de Bâton Rouge.
Ouais, on va pas développer ce qui a été déjà dit par Jean-Michel et Victor lors d'un précédent podcast sur Keishon Boutte. C'est vrai que lui, je croyais beaucoup en lui avant la saison 2022, notamment du côté de LSU avec un nouveau coach, un nouveau quarterback en plus et des cibles autour de lui qui ne sont pas forcément des receveurs numéro 1, même si Charles Jenkins ou encore Malik Nabers pouvaient faire le travail. Mais Keishon Boutte est ma grosse déception de l'année 2022. Seulement 2 touchdowns, dont un contre Georgia, bon, qui a fait peut-être monter sa cote, qui sait. Mais oui, de grosses inquiétudes, notamment lors du combine. Finalement, il n'a pas l'air si athlétique que ça. Le comportement, effectivement, comme tu le disais, ça, c'est un peu, c'est pas très exemplaire, on va dire. Et puis, apparemment, il a des problèmes au niveau des mains, ce que je n'avais pas vraiment avant la saison 2022 noté. Mais ouais, effectivement, il a un pourcentage de drop qui est quand même assez grossier en 2022, malgré des matchs où il a été bon. Mais c'est vrai que ce n'est pas le receveur finalement que certaines équipes NFL pouvaient rechercher via la draft si jamais on voulait un receveur numéro 1 immédiatement.
Bah c'est ça, moi à mon sens, j'avais pris cet exemple-là hein, du débrief combine, mais c'est vrai que c'est pas tout à fait les mêmes circonstances, mais on est un petit peu dans les mêmes impératifs entre guillemets que pour George Pickens, c'est-à-dire que si on veut le sélectionner, vaut mieux le sélectionner dans une équipe qui est déjà compétitive, où ce sera pas à lui qu'on va demander d'être la star, et où on va éventuellement minimiser peut-être voilà, les petites crises d'ego ici et là. Alors je sais par exemple, encore une fois ça dépendra à quel tour il est disponible, mais si Buffalo par exemple est intéressé par un Keishon Boutte, ça peut être une connexion qui serait pas forcément inintéressante. Donc voilà, ce type éventuellement de profil, une organisation en tout cas qui saura lui montrer que voilà, c'est pas forcément lui la star, mais qu'on lui fait confiance. Et j'ai un peu peur que voilà, dans une équipe avec un peu plus de besoins, vraiment avec un besoin de receveur numéro 1, là, ça peut se gâter un petit peu plus de par ce qu'on en voit et en effet de par peut-être un apprentissage qui mérite d'être un peu plus développé aussi parce qu'il y a une année 2022 qui l'a quasiment, j'exagère un peu, il y a une meilleure fin de saison que de début, mais une saison 2022 qui l'a quasiment jeté à la poubelle, quoi. Quand on voit les chiffres, il fait ouais, 538 yards et 2 touchdowns à la réception quand on voit, voilà, quand on sait qu'il faisait des chiffres beaucoup plus impressionnants. À LSU les premières années universitaires, il fait moitié moins de yards à la réception que son autre partenaire à la réception, enfin que l'autre receveur qui joue à ses côtés. Donc c'est vrai que voilà, c'est pas normal entre guillemets d'avoir un Keishon Boutte attendu dans le top 3 des receveurs, de le voir quasiment en option du côté des LSU. Donc voilà, il y a sans doute une remise en question à faire à ce niveau-là, mais ouais, là on est clairement sur du joueur dont la cote a clairement baissé ces dernières semaines.
Voilà, pour le défendre un peu, Keishon Boutte, hein, pour justifier que la cote a baissé, il faut dire aussi qu'il y avait un nouveau système offensif. Mm-hmm. Le quarterback était Jaden Daniels, c'est pas forcément le quarterback qui lance le plus en NCAA. Donc, s'il a un quarterback qui va lancer dans sa direction et qui profite du train dans son numéro 1, là, je pense qu'on a peut-être un style. Mais on a aussi un. Donc, le boomer bust, il est tout marqué sur ce profil.
C'est ça. Bon troisième tour pour Keishon Boutte.
Oui, troisième tour, mais au maximum deuxième, mais pas premier, clairement.
On va dire entre la fin du deuxième et le début du quatrième, allez, pour mettre tout le monde d'accord.
Allez, c'est ça.
Voilà, si ça. Vraiment en fonction de à quel point il aura polarisé. On passe au troisième chapeau, à présent les trois derniers receveurs de ce plateau, et on va commencer... Niti par Nathaniel Dell, Tank, comme l'appellent ses aficionados, receveur donc de Houston. Là aussi, on parlait dans le précédent podcast d'Ivan Pace, qui est une petite boule d'énergie. Je pense qu'on peut dire à peu près pareil sur Nathaniel Dell, qui a affiché des chiffres absolument délirants du côté de l'université d'Houston.
Ouais, mais c'est l'université d'Houston, après. Donc, dans la conférence AAC, non, désolé pour les autres équipes de la conférence AAC, il y a quand même Cincinnati, hein, donc tu as cité les Bearcats. Donc, du côté des Cougars, effectivement, plus de 30 touchdowns hein, en 3 matchs.
En
en trois
saison.
saisons, voilà. Dont une saison 2022 à 17. Hein. Après, le profil Nathaniel Dell, il est un peu intriguant puisqu'il fait des stats, oui, mais c'est aussi un joueur qui a une petite taille, donc il sera jamais utilisé donc, au large puisqu'il a déjà 23 ans, donc il sera probablement qu'un slot receveur en NFL. Et son potentiel, c'est receveur numéro 2, clairement. Alors,
Est-ce que j'ai une bêtise si on dit qu'il y a beaucoup de similitudes, alors, au-delà de la taille, mais est-ce qu'il n'y a pas un côté Elijah Moore dans son utilisation potentielle en NFL?
oui, alors Elijah Moore, il est peut-être plus costaud puisque je sais plus combien il pèse, hein, Elijah Moore. Et Nathaniel Day, il pèse que 75 voire 78 kilos. Voilà, donc effectivement, peut-être un profil à Elijah Moore. J'avais un autre profil pour lui, bah justement peut-être Philippe Dorsett également comme joueur, on pourrait comparer, même s'il est peut-être un peu plus grand, hein, Philippe Dorsett, que Nathaniel Dell. Mais ce sera une vraie menace avec un receveur numéro 1 à ses côtés et un vrai ce qu'on appelle enquiquineur pour les cornerbacks NFL, peut-être plus grands et qui auront du mal avec ces changements de direction. Par contre, son problème, et on l'a vu à Houston, vu qu'il était souvent visé, bah, c'est au niveau des mains. Il a fait une bonne dizaine de drops dans ses deux dernières saisons, 10 en 2021, 9 en 2022. Donc des petits sauts de concentration qu'il va falloir corriger en NFL.
Trois
Ce
fumbles
sera,
aussi.
voilà, des
C'est ce que
fumbles
tu allais
également.
dire?
Voilà, des fumbles
Ouais, pardon.
également, donc des sauts de concentration également. Donc c'était le playmaker Houston, mais en même temps, il y avait que lui, j'ai envie de dire, à Houston pour pouvoir créer du jeu et pouvoir faire avancer l'équipe. Donc voilà, un joueur qui sait être un leader offensif, mais dans une équipe NFL, est-ce que, voilà, vu qu'il a produit en université, est-ce qu'il pourra faire cette production NFL? Pas sûr.
C'est ça. On va dire que c'est un joueur qui s'est constitué une belle cote, notamment à l'occasion du Senior Bowl, hein, de par justement cette vitesse, ces changements de direction, un peu cette capacité à casser des hanches, hein, entre guillemets,
Exactement.
pour reprendre cette expression-là. L'arbre des tracés n'est pas fulgurant, mais en tout cas, il a ce petit facteur X qui lui permet, cette facilité qui lui permet de ne pas forcément avoir besoin de maîtriser tous les tracés à merveille. Mais voilà, c'est vrai que s'il n'y a pas cette discipline, notamment au niveau des mains, ça va rester un profil. Alors, c'est sûr que slot receiver dans la NFL moderne, voilà, il y a beaucoup d'équipes NFL qui tournent avec trois receveurs. Donc, il y a quand même la possibilité d'être un titulaire malgré tout. Mais c'est vrai que je te rejoins, voilà, malheureusement, ça risque de lui fermer pas mal de portes. Surtout que, voilà, comme beaucoup de joueurs, voilà, on est sur des profils de receveurs là où il ne faudra pas s'attendre à des bagarreurs, quoi. C'est
Peut-être un profil
clairement des joueurs qui
ici.
misent sur de la prise d'espace. Ouais.
Peut-être un profil similaire par rapport à la draft de l'année dernière, c'est Wandale Robinson, que je pourrais trouver,
Oui.
même si Nathaniel Dell a plus ce profil playmaker qu'avait Wandale Robinson, mais plus dans les réceptions, parce que Wandale Robinson, c'était un joueur qui pouvait gagner des yards à la main, on va dire, en yards après réception. Ce que Nathaniel Dell a très peu fait à Houston.
Tout à fait. On passe au deuxième receveur de ce troisième chapeau, à savoir Rashee Rice, receveur d'SMU. Hein, décidément, la conférence américaine, la fameuse AAC dont on parlait tout à l'heure avec Houston, est très bien représentée au niveau des receveurs. Et ça se confirme donc avec Rashee Rice, joueur qui a progressé saison après saison, qui était, on va dire, la belle histoire, notamment offensive, du début de campagne 2022. Un joueur qui a réceptionné absolument tout. Les ballons. Alors, globalement, sur le papier, il y a des bonnes stats. J'ai essayé de retrouver ça rapidement. En 2022, Rashee Rice, ça a donné 1355 yards et 10 touchdowns. Tu parlais du système offensif de Houston. Il faut bien rappeler que le système offensif des SMU, c'est très très particulier avec énormément de jeux aériens. Donc, forcément, ça a aussi vocation à mettre les receveurs à l'honneur. On n'est pas sur un receveur qui a un arbre des tracés très développé non plus. Sa capacité de séparation n'est pas folle. Alors oui, certes, dans une configuration, voilà, on est sur du receveur de possession assez classique, mais peut-être avec une certaine inconstance au niveau des mains, et je le disais, peut-être des éléments techniques qui peuvent jouer en sa défaveur, on va dire.
Ouais, tu as quasiment tout dit, notamment sur les points faibles avec les mains et l'arbre de tracé. Bon, l'arbre de tracé à SMU, c'est vrai qu'il n'est pas fameux dans le système presque air raid du côté de Southern Methodist. Mais c'est un vrai playmaker, hein, effectivement, Rashee Rice. Hein, après, c'était quasiment le receveur numéro 1 du côté de SMU. Il a un potentiel pour devenir un receveur numéro 2, clairement, en NFL. Il a qu'une bonne taille, hein, 1m85, hein, 92 kilos, et il a aussi une bonne manière de casser les plaquages et de pouvoir bien se resituer lorsque le ballon est mal lancé voilà, par le quarterback. Oui, un profil finalement atypique, hein, et on se demande finalement si ce joueur-là pourrait être un steal au troisième tour ou alors peut être finalement un bust s'il est pris très tôt, c'est-à-dire au deuxième tour.
Ouais, c'est ça. C'est un peu ce qui va conditionner là aussi sa classe. C'est que, ouais, tu le disais, ça peut être une vraie éponge, à savoir un joueur à qui, en effet, si on lui propose de voir un petit peu autre chose, bah, on n'est pas sûr que sa marge de progression est pas plus importante que ce qu'on a à l'heure actuelle. Mais c'est sûr que c'est un pari qui peut s'avérer risqué. Donc là, on est pleinement, à mon sens, sur du troisième, quatrième tour. C'est-à-dire que sur l'aspect purement production, et éventuellement, sur les espérances qu'on peut en avoir, c'est un troisième tour. Si on reste sur le côté, bah, de toute façon, c'est un joueur de système qui ne sait pas faire grand-chose d'autre. Ça restera, à mon sens, un joueur sélectionné au troisième jour.
Bah, c'est ça, en fait. Le problème, c'est qu'il a la taille, pourtant, et il a la dimension physique pour être un receveur qui peut être aligné sur l'extérieur. Mais là, malheureusement, en NFL, je ne le vois que dans le slot, vu que dans le système à SMU, il a évolué principalement depuis cette position. Ça risque d'être un peu compliqué pour lui si jamais en NFL il n'arrive pas à assimiler le cahier de jeu offensif que fournira l'équipe qui va le drafter.
Tout à fait. On termine avec le troisième joueur de ce dernier chapeau, Josh Downs, receveur de North Carolina, 1029 yards et 11 touchdowns à la réception, Nitti. On reste sur ces profils de joueurs assez, ben, on va dire assez frêles. Qui ont aligné des stats absolument monstrueuses en 2022, mais à qui il ne faudra pas demander de faire mille et une choses arriver chez les pros.
Effectivement, comme je l'ai dit, comme on l'a dit sur le site internet, il y aura pour tous les goûts sur le poste de receveur. Là, effectivement, depuis, alors Rashee Rice peut faire exception, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de profils frêles, comme tu l'as dit, et Josh Downs ne fait pas exception. C'est un joueur vraiment de gadget, hein, comme on dit. C'est peut être un joueur qui peut aussi contribuer d'abord en équipe spéciale comme retourneur de coups de pied, ce qu'il a fait à North Carolina notamment. Il a tellement le profil de slot receiver que finalement, la polyvalence ne se voit pas, puisque en NFL, comme tu l'as dit, il sera finalement qu'un joueur de slot. Mais c'est peut-être son gros point fort et peut-être le meilleur de la QV à partir de cette position. Il a un bon art de tracé, une bonne vitesse pour créer la séparation. Mais voilà, comme tu l'as dit, frêle, donc un manque de puissance. Mais malgré tout, il y a un beau pourcentage en réception contestée. Donc, il peut finalement faire tourner la tête de plusieurs recruteurs en NFL. Donc, un profil intriguant que je vois bien au deuxième tour, même si du côté des Tarries, et en plus, du côté des Tarries, j'ai oublié, il avait donc Samuel et puis il a eu Drake May, donc il s'est adapté au système et au lancer de quarterback, donc il peut être un joueur plutôt intriguant avec un potentiel qui peut être énorme pour être peut-être un bon receveur numéro 1, qui sait, en NFL.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'en plus il a eu deux, est-ce qui ça nous a un petit peu permis de voir le panel un petit peu varié, on dira, que peut proposer Josh Downs, en tout cas peut-être un peu plus varié que ce qu'on peut voir ailleurs, parce qu'en l'occurrence, on a une équipe de North Carolina qui avait tendance à jouer beaucoup dans le domaine aérien, mais avec des quarterbacks très mobiles. Donc d'un côté, ça nous a permis justement de voir cette adaptation de Josh Downs avec différents types de quarterbacks, mais avec justement la possibilité de le voir évoluer à la réception, mais aussi sur les phases de bloc où on l'a vu un peu plus en difficulté, ce qui n'est pas non plus anormal vu le gabarit du bonhomme. Mais tu le disais, là, à l'inverse, c'est vrai que même si ça va rester principalement un slot receiver, c'est un joueur qui, contre des slots corner peut-être un peu plus costaud, peut avoir malgré tout voilà, son mot à dire. On a vu notamment au combine, il me semble que c'est un des plus intéressants sur le saut vertical.
Oui, sur le saut vertical, il a été très bon. Il fait partie des cinq premiers, il me semble.
Voilà, donc voilà, même le saut à pieds joints qui démontre les qualités athlétiques, je crois qu'il a fait également un très très bon score. Donc globalement, les qualités athlétiques sont là, la production à North Carolina est là, et il y a quand même une marge de progression assez intéressante. Donc voilà, je serais très très curieux de savoir dans quelle équipe il va tomber. Sans doute pas une équipe qui aura besoin de receveur numéro 1, parce que je ne pense pas qu'il aura cette possibilité, en tout cas dans l'immédiat, d'assurer ce rôle-là. Mais ça peut vraiment être un joueur assez intéressant à développer. Je n'ai pas la comparaison comme ça tout de suite qui me vient en tête. Mais en tout cas, oui, il y a. Bah, j'utilisais Ija Moore tout à l'heure. Il y a peut-être un peu plus de coffre le concernant, en l'occurrence. Mais voilà, sans vouloir dire de bêtises. Mais voilà, ça fait partie en tout cas de ces joueurs qui peuvent avoir un rôle important dans la NFL moderne, qui peuvent être vraiment des slot receivers d'impact à l'échelon supérieur. Donc voilà, Josh Downs, grosse, on va dire, mini sleeper, même s'il est dans notre troisième chapeau, ça peut clairement être un joueur assez intéressant à suivre.
Très clairement, et puis surtout, moi je voudrais aussi signaler son travail, notamment au niveau des pieds. Il fait très bien il maîtrise très bien le stop and go, notamment, c'est-à-dire le tracé qui s'arrête, et puis ensuite, ensuite on remet une deuxième couche pour pouvoir se débarrasser du nickel cornerback. Donc, clairement, un joueur, comme tu l'as dit, à surveiller, donc peut-être un mini sleeper, mais il faisait partie des receveurs que je devais surveiller en NCAA. Et lui, par contre, contrairement à d'autres, ne m'a pas déçu. C'est un très bon joueur.
Tout à fait. Voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur cette classe de receveurs. Je te remercie, Nidhi, d'avoir été en ma compagnie. Les podcasts, notamment audio, sur la draft se poursuivent. Normalement, il y aura le top 50, notamment, qui vous sera proposé d'ici peu, a priori par Victor Roulier, hein. Vous retrouverez ça notamment à l'oral et à l'écrit. Encore une fois, je ne veux pas trahir des choses qui se disent en off, mais a priori, c'est l'idée derrière tout ça. On aura sûrement une mock draft qui va pas tarder également, hein, vers la fin du mois de mars. On va potasser un petit peu en ce sens justement pour tirer les premiers enseignements des jours de free agency. Puis voilà, restez en tout cas fidèles au programme de Touch Down Actu sur touchdownactu.com, sur les différents réseaux sociaux, TD Actu notamment sur Twitter, les plateformes de téléchargement, sans doute celle par exemple sur laquelle vous nous écoutez à l'heure actuelle. Donc voilà, restez bien fidèles à TDA durant ce gros programme draft qui va durer encore pendant un bon mois et demi. Et voilà, il y a encore les pastilles draft consacrées plus spécifiquement aux différents besoins des équipes, les fiches draft qui continuent à l'écrit jusqu'à la fin du mois d'avril. Donc voilà, plein de choses pour vous tenir informés sur l'actualité de ce processus de draft. Merci à tous et à très vite sur les antennes de TDA. Salut à tous.
Salut.